old records never die.
Soyez les bienvenus à l'écoute de ce nouveau numéro de Old Records Never Die. Dans quelques semaines aura lieu le festival This Is Not a Love Song à Nîmes, le premier week-end de juin, exactement les 5 et 6 juin. Nous y reviendrons dans une prochaine émission qui lui sera entièrement consacrée. Ce festival se présente comme étant celui des musiques indépendantes. Et c'est peut-être l'occasion de faire une émission sur ce qu'on appelle le rock indé. Alors, le rock indé, est-ce un genre musical à part entière, avec ses règles, ses codes et ses particularités? Si je pose la question, c'est justement parce que ce n'est pas le cas. Le rock indé en français, indie rock en anglais, désigne en fait une classification apparue à la fin des années 70. À l'origine, ce terme désigne des groupes qui s'affranchissent, volontairement ou pas, des major companies. Ces labels qui faisaient la loi sur le marché et qui imposaient leurs groupes à coups de promotion et qui, corollaire évident oblige, refusaient d'éditer ceux qui ne leur convenaient pas. Donc, indie rock n'est pas une classification musicale, mais désigne bien des disques édités par de petits labels. Techniquement, un groupe publié par une major ne peut être qualifié d'indé. On peut y trouver des gens qui font du rock, du punk, du rock psychédélique, et même de la country ou du folk, bien que ces deux dernières catégories n'entrent pas dans la catégorie rock. On peut situer le début du rock indé à la fin des années 70. À l'époque, on est en pleine période punk. Toutefois, l'histoire du rock regorge de groupes qu'on aurait pu qualifier d'indés. Les précurseurs du rock ont en effet été produits, la plupart du temps par un petit label, Chess Records, spécialisé dans la musique jouée par des Noirs et distribuée, ségrégation oblige, par des réseaux réservés aux Noirs. Par la suite, les major companies récupéreront ce mouvement au fur et à mesure qu'il se blanchira. Alors au cours de cette émission, on va écouter des titres de rock indé. Vous constaterez qu'ils sont assez différents. Et on commence par le Velvet Underground, qui à l'origine a été publié chez Verve Records, un label indépendant. Ce choix s'est imposé parce qu'ils n'étaient pas nombreux à vouloir éditer le Velvet Underground, jugé trop subversif et malsain. Et la chanson qu'on va écouter s'appelle « Femme fatale », c'est extrait du premier album du Velvet Underground, qui s'intitule « The Velvet Underground with Nico », et justement c'est Nico qui chante dans ce morceau, pas toujours forcément juste, et on l'écoute.
Everybody knows
she's a pimpin' town.
she does to please. She's just a little tease. See the way she walks. Hear the way she talks. 'Cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease.
Revenons donc à la fin des années 70. L'un des slogans des punks est le fameux « Do it yourself ». Nombre de groupes n'ont pas attendu d'être publiés par les majors, ils ont enregistré avec les moyens dont ils disposaient. Et c'est essentiellement au Royaume-Uni que ça se développe. On monte un groupe, on répète, on enregistre un disque qu'on distribue comme on peut. Le bouche à oreille fait le reste. Et si certains se contenteront d'une notoriété locale, d'autres parviendront à atteindre une certaine renommée, faisant passer le label de petit indépendant à structure mieux organisée. Certaines radios, telles que Croc, K-R-O-Q à Los Angeles, vont se spécialiser dans la diffusion de titres issus de labels indépendants. L'histoire du rock indé, c'est donc plus une histoire de labels indépendants qu'une histoire de groupe ou de genre musical. On va passer en revue quelques-uns de ces labels. Et on commence par Factory Records, créé en 1978 à Manchester par Tony Wilson et Alan Erasmus. Tony Wilson était le présentateur de l'émission So It Goes sur Granada Television et Alan Erasmus, manager de groupe. Manchester est à l'époque une ville importante du mouvement New Wave. Factory, c'est le nom d'un club de Manchester où se produisent pas mal de groupes de la ville. Erasmus et Wilson donnent leur chance à des groupes inconnus et bien évidemment pas signés par de grosses machines. L'idée de continuer en créant leur propre label fait son chemin et c'est ainsi que Factory est créé. Dans le premier temps, ils vont recruter le producteur Martin Hammett, qui donnera une identité sonore au label, et puis le graphiste Peter Saville, qui dessinera les pochettes des albums et donnera une identité visuelle au label. Le groupe que Wilson veut à tout prix avoir dans son catalogue est Joy Division. Pour ce faire, il proposera un contrat avec une répartition des bénéfices à 50-50, alors que les major compagnies pratiquaient plutôt du 90-10. 90 pour eux, bien évidemment. Et RCA était en compétition avec Factory. La légende dit que Wilson a signé le premier contrat de Joy Division avec son propre sang. Le premier album produit par Factory est donc celui de Joy Division. Belle prise et joli succès pour une première. L'attrait des contrats fera venir d'autres formations telles que Orchestral Manoeuvre in the Dark et Dirty Column notamment. Avec Joy Division, Factory ne s'est pas trompé de cible. Le premier album est bien accueilli, mais le deuxième, sorti juste après le suicide de son chanteur Ian Curtis, reste encore aujourd'hui un des albums qu'il faut avoir dans sa discothèque. Et je vous propose donc qu'on écoute un extrait du tout premier album de Joy Division et ça s'appelle Disorder.
10th floor down the back stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow.
Le club Factory ferme en 1981 et le label Factory ouvre alors l'Hacienda dans une ancienne usine textile de Manchester. La décoration est coûteuse et les prix pratiqués sont très abordables tant en ce qui concerne l'entrée que les consommations. Le club sera en déficit quasi permanent. C'est le label qu'il renfloue à chaque fois. Mais c'est néanmoins le centre culturel de Manchester à l'époque. Rien n'arrête Factory, qui ouvre un bar et une boutique toujours à Manchester. Ça tiendra encore quelques années, jusqu'à ce qu'en 1992, Factory soit en faillite. Et l'Hacienda ne lui survivra pas très longtemps. Il y aura une tentative de redémarrage en 1994 avec Durruti Column, mais ça ne durera pas. Le label est officiellement et définitivement clos en 2007 avec la mort de Tony Wilson. Factory reste l'exemple d'un label construit autour de la volonté de donner une chance à des groupes inconnus et la volonté de rendre accessible la musique à tous. Des idées parfois un peu délirantes et une absence de gestion rigoureuse ont eu raison de ce label historique qui avait pour particularité de donner un numéro à toutes ses productions, disques, affiches, boutiques, etc. Le dernier numéro attribué est celui du cercueil de Tony Wilson. Alors je vous ai dit que parmi tous les groupes publiés par Factory, il y avait Durruti Column, et je vous propose d'en écouter un extrait, et ça s'appelle Jacqueline. Thank you. Rough Trade est un autre label créé aussi en 1978 en Angleterre, mais à Londres cette fois. À l'origine, c'est un magasin de disques très spécialisé punk et post-punk, géré par Geoff Travis. L'idée de monter un label est venue à la suite d'une demande d'aide du groupe français Metal Urbain. Ils souhaitaient que Rough Trade les aide à distribuer leurs albums. Rough Trade ira plus loin en créant son propre label et en organisant un réseau de distribution avec d'autres disquaires indépendants du Royaume-Uni. Dans ce réseau, on vend les disques aussi d'autres labels indépendants comme Factory ou Two Tone Records. Les signatures s'enchaînent et grâce au réseau de distribution, les résultats sont excellents, notamment jusqu'en 1982, date à laquelle le réseau de distribution des disquaires s'effondre en raison d'un problème de manque de liquidité. Rough Trade repartira un petit peu plus tard, mais pour peu de temps avant d'être racheté par BMG. Le catalogue Rough Trade a comporté quelques groupes reconnus, parmi lesquels Arcade Fire, Baxter Dury, Cabaret Voltaire, Scritti Politti, The Fall, The Kills, The Libertines, The Smiths, The Strokes et Young Marble Giants, dont je vous propose d'écouter un extrait, un titre qui s'appelle Colossal Youth, comme le nom de leur seul et unique album paru à ce jour. Toujours en 1978, à Londres, Daniel Miller crée Mute Records. L'idée de Miller est au début de produire sa propre musique. C'est un musicien axé nouvelles technologies et assez compétent en termes de gestion d'entreprise. Il publiera essentiellement ce genre de musique au début de Mute Records, en sélectionnant les groupes qu'il retient sur ses propres critères artistiques. Peu à peu, il va élargir son catalogue avec Depeche Mode, Nick Cave and the Bad Seeds, mais aussi Moby ou Ian Tiersen, c'est vous dire s'il avait élargi sa gamme. À la différence des deux précédents, Miller a su gérer son affaire et en 2002, il la revend à EMI, une major compagnie. Des clauses spéciales figurant au contrat permettent à Mute Records de continuer à fonctionner avec une certaine autonomie. La suite sera complexe en raison des achats et ventes successives à Universal, BMG et Warner Bros. Des gros qui se mangent entre eux. Daniel Miller a su, lui, tirer son épingle du jeu. C'est un des rares à avoir été plus gestionnaire que passionné de musique et avide d'indépendance. Alors, un des groupes publiés par Mute Records, c'était Wire, et on écoute un extrait de leur premier album et ça s'appelle Pink Flag. Thank you. Si Factory a contribué à l'essor de la New Wave à Manchester, aux États-Unis, le label Sub Pop, fondé en 1986 à Seattle, a favorisé le développement du grunge. C'est le journaliste Bruce Pavitt qui le crée. Initialement, c'est un fanzine nommé Subterranean Pop. Dans son fanzine, Bruce Pavitt publie des critiques de disques et il lui arrive de distribuer une cassette au début, puis un vinyle regroupant les groupes dont il parle. Il rencontrera Jonathan Poneman, qui anime aussi une émission de radio. Ils ont l'idée de fonder leur propre label destiné à aider à la promotion des groupes de la région de Seattle. Le premier titre enregistré ne sortira qu'au bout d'un an, faute de moyens. C'est Poneman qui apporte les fonds et ils publieront aussi le premier disque de Soundgarden. Et les gars sont tellement convaincus du potentiel de la scène de Seattle qu'ils démissionnent de leur boulot respectif pour se consacrer exclusivement à Sub Pop. On est en 88 et ils n'ont que deux formations à leur actif, Green River et Soundgarden, qui tous les deux ont annoncé leur désir de partir à la fin du contrat. Heureusement, Seattle bouillonne et nombre de groupes se forment. Chez Sub Pop, ils ont la possibilité de signer des contrats. C'est une aubaine pour Sub Pop, avec l'arrivée de Tad, Mudhoney et surtout Nirvana. Mais je vous propose qu'on écoute tout de suite un extrait de Mudhoney, et ça s'appelle 24. Kurt Cobain s'inscrivait parfaitement dans l'état d'esprit indé. Il a toujours refusé de voir ses disques publiés par des major companies dans lesquelles il n'avait aucune confiance. Il redoutait d'y perdre son autonomie, son indépendance et de se faire piéger par un système qu'il dénonçait. Les idées ne manquent pas, notamment celle d'envoyer pendant un an des vinyles colorés contenant des singles de groupes qu'ils ont sélectionnés. Les abonnés reçoivent ainsi des disques de gens inconnus, qui ne le resteront pas tous très longtemps. Le premier de la série est un titre qui s'appelle Love Buzz de Nirvana. La communication est plutôt bonne et on commence à parler de Sub Pop ailleurs qu'à Seattle. Malheureusement, la santé financière est toujours précaire et la distribution n'est pas à la hauteur des espérances de tous. Bleach, le premier album de Nirvana, n'a qu'un tirage limité et est mal distribué. Nirvana partira juste après chez Geffen Records, un autre label indépendant aux reins toutefois un peu plus solides. Et c'est par Geffen Records que seront publiés Nevermind et In Utero. Nevermind se vendra quand même à 60 millions d'exemplaires. Et c'est une manne financière pour Sub Pop, car lors du rachat du contrat de Nirvana, une clause prévoyait le versement de 2% des royalties des deux albums suivants du groupe. Donc ça a été une belle affaire pour Sub Pop, qui en plus a vu les ventes de Beach également relancées. Or je vous propose tout simplement qu'on écoute le premier morceau enregistré par Nirvana, et ça s'appelle donc Love Buzz. Ce succès déborde aussi sur d'autres formations de Seattle, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, qui malheureusement ne sont plus chez Sub Pop à l'époque. La notoriété est là, la situation financière est excellente, tout pourrait aller pour le mieux jusqu'à la mort de Kurt Cobain. Pavitt et Poneman comprennent qu'ils ont tout intérêt à vendre. Ils trouvent un accord avec Warner qui leur rachète 49% des parts. Sub Pop continue, mais la direction est plus chaotique. Il n'y a plus la même vision qu'à l'origine. De surcroît, Pavitt et Poneman sont en désaccord permanent et la séparation est inéluctable. Pavitt démissionne en 1996, tout en gardant 25% des parts. Sub Pop tente des coups plus que des coups de cœur, à l'exemple du single New Slang de The Shins, vendu pour être utilisé dans une pub de McDo. Les avocats, eux, géreront le conflit entre Pavitt et Poneman. Sub Pop continuera en diversifiant son catalogue, alternant les bons résultats et les déconvenus, mais ça, c'est comme tous les labels. Un des groupes publiés par Sub Pop s'appelait Built to Spill, et on en écoute un extrait, Israel Songs. Les labels indépendants ne sont pas qu'anglais ou américains. New Rose est français et a été actif de 1980 à 1992. À l'origine, il s'agit aussi d'un disquaire branché punk rock. Le label et le magasin fonctionnent ensemble. Les fondateurs sont Patrick Maté et Louis Thévenon. Patrick Maté est un vrai gérant d'entreprise, diplômé de HEC, et il sait où il met les pieds, puisqu'il a bossé chez RCA. L'association Magasins et Labels est importante car elle permet la distribution des disques via les réseaux de disquaires indépendants qui existaient encore à l'époque. Cette association permettait aussi des expériences intéressantes. Par exemple, en 1990, Reckless Eric donne un concert dans la boutique, il est enregistré et publié par le label. Patrick Maté se constituera un joli catalogue avec des groupes comme Cramps, Rocky Erickson, The Fleshtones, Gun Gun Club, Elliot Murphy, Chris Spedding et Johnny Thunders. Un des plus beaux coups, ou tout, presque même son plus beau coup, est d'avoir découvert Calvin Russell dans un bar américain et de l'avoir convaincu de venir en France où il a connu une belle carrière alors qu'il végétait dans son pays natal. En 92, Patrick Maté vend New Rose à Fnac Records. Alors je vous ai parlé des Fleshtones. C'est le moment ou jamais d'en diffuser un extrait. Or, ce n'est pas forcément un groupe qui a acquis une grande notoriété, même si sa durée de vie est exceptionnelle, car il existe depuis 1977. Je n'ai pas compté le nombre d'albums publiés, mais on n'est pas loin de la trentaine. Ce sont des Américains de New York, et les vrais amateurs de rock connaissent et apprécient les Fleshtones qu'on écoute dans Stop Fooling Around. Les labels indépendants ont été nombreux à partir des années 80. Ils n'ont pas tous duré, comme on vient de le voir. Ce monde est difficile et la concurrence avec les major companies a été dure et fatale à un certain nombre d'entre eux. Certaines majors iront même jusqu'à créer des labels pseudo-indépendants bénéficiant de leur réseau de distribution pour être sur le marché. Je n'en ai cité que quelques-uns, car il aurait fallu beaucoup plus d'une heure pour tout évoquer. Ça a néanmoins continué d'exister sous d'autres formes. Les ventes de disques ou CD ont considérablement chuté au profit d'une diffusion dématérialisée de la musique. Le phénomène majeur auquel on assiste est désormais que des artistes, pour préserver leur indépendance, produisent eux-mêmes leur musique afin de ne pas subir les pressions commerciales des gros labels. La musique indé aujourd'hui n'est plus que rock. On voit apparaître du folk indé et de la musique country. Je vous propose maintenant un dernier titre, très rock psychédélique dans la mesure où il s'inspire ouvertement des premières compositions de Pink Floyd, époque Syd Barrett. John Dwyer, multi-instrumentiste, est le fondateur de ce groupe qui a changé de nom aussi souvent que de line-up. C'est l'exemple typique du groupe de rock indé. Il fait ce qu'il a envie de faire, quand il en a envie, indépendamment des courants majoritaires de l'époque. Il a pu apparaître souvent à contre-courant, mais ce n'est pas le problème de John Dwyer, qui, en véritable staccanoviste de la musique, ne cesse d'écrire, compose et publie au travers de plusieurs labels. Faire plus indépendant que lui, ça n'est pas très très facile. Le morceau des Filthies que je vous propose, c'est Encrypted Bones.
We'll be right back.
Les groupes qualifiés d'indés ont eu des fortunes diverses. Un grand nombre sont restés inconnus, car peu diffusés, alors que d'autres, repérés par des majors, n'ont pas hésité à s'affranchir des labels qui les avaient soutenus à l'origine. Ça permet à des musiciens de faire ce qu'ils ont envie de faire, et c'est très bien. Les groupes veulent de moins en moins être catalogués dans un seul registre. Dernière chose, j'ai parlé de rock indé, mais on a aussi dit qu'il s'agissait de rock alternatif. Les deux termes désignent à peu de choses près la même chose. La principale qualité du rock indé est d'avoir donné la possibilité de s'exprimer à des groupes qui ne l'auraient pas eu s'ils étaient restés dans le circuit des majors. Seuls des petits labels pouvaient se permettre de jouer ce rôle. L'argent n'était pas le moteur principal de ces labels, alors que la rentabilité et la respectabilité sont des vertus cardinales des gros labels. Il y a eu du déchet, mais ça a permis à des jeunes musiciens de rêver un peu et de croire en leur chance. Rien que ça, c'était déjà énorme. J'espère que vous avez découvert un peu plus la musique rock indé. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne soirée. À bientôt, au revoir.